enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va se jeter tout de suite dans la parole de Dieu. Parce que c'est tellement merveilleux. Allons à Matthieu 8, s'il vous plaît. Matthieu, lui, c'est dans le Nouveau Testament, le premier livre. Je le dis seulement. Si les gens cherchent encore, allons-y. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis va. Je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh. Arrêtons-nous là. Voilà. Je vais intituler mon titre de message aujourd'hui, si tu le veux. Cette histoire est une belle histoire, comme dans toute la Bible, mais j'aimerais m'attarder d'abord au premier verset, à cette première guérison. Cet homme arrive et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous regardons la suite, un centenier vient et Jésus dit, je n'ai jamais vu un homme avoir une si grande foi. Nous connaissons tous Dieu. Chacun de nous sait ce qu'il peut faire. Et justement, ce lépreux pose la question à Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Moi, je vous pose une question. Est-ce que Dieu veut le rendre pur? Oui. Alors, pourquoi pose-t-il cette question? Posons-nous la question. Des fois, nous savons ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais est-ce que nous savons ce qu'il veut? Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? D'ailleurs, quand j'écoutais Vera et j'écoutais Salomon la semaine dernière, et j'ai dit à Salomon, « Salomon, tu as pris mon message parce que je voulais parler de la volonté de Dieu. Mais je vais le terminer et je veux continuer ce message-là. » Vous savez, ce lépreux représente un peu ce que nous sommes des fois dans la vie chrétienne. Il y a des moments dans la vie où ce n'est pas facile. Il y a des moments où on sait que Dieu peut le faire. Mais on est devant Dieu en disant, « Est-ce que tu le veux ? » Est-ce que nous connaissons sa volonté pour nos vies ? Est-ce que nous savons ce que Dieu veut faire pour nous ? Pour que tout change. Le problème de beaucoup de chrétiens, et le mien, c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. La Bible dira dans Osée, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Il n'est pas détruit parce qu'il ne prie pas. Il n'est pas détruit parce qu'il ne va pas à l'église. Mais il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Vous savez, on peut venir à l'église. Comme disait tout à l'heure Philippe, on peut faire tout par habitude. On peut venir chaque dimanche, chaque mercredi venir à la réunion de prière, venir chaque fois devant le Seigneur. Mais on ne vient pas avec un cœur sincère, mais on vient par habitude. Parce que nous venons et nous disons, Seigneur, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Mais est-ce que nous savons ce qu'il veut exactement? Est-ce que nous savons que quand nous prions pour Dieu, que nos familles peuvent être sauvées? Moi, je vous pose la question. Parce que c'est ce qu'il a posé le lépreux. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez combien Jésus est bon. Il a dit, oui, je le veux, sois pur. Quand nous regardons exactement, nous examinons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut notre bien. Beaucoup de gens pensent qu'il ne se soucie pas de nous. Là, je ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais à ceux qui connaissent Dieu. Parce que vous savez, nous pensons que s'il nous arrive des petits malheurs, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Continuons comme cela. Non, la Bible dit, renouvelle ton intelligence. Ne vous conformez pas à ce monde, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses qui arrivent ne peuvent avoir que de bonnes choses. Vous allez me dire, mais Pat, c'est faux ce que tu dis. Non, parce que quand nous sommes avec Dieu, nous avons la victoire. La Bible dit qu'au jour de la détresse, tu m'invoqueras et je te répondrai. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous passerons par des moments difficiles. Mais Dieu sera là. Dieu sera là pour nous aider et pour nous en sortir et nous en délivrer. Et pas le contraire. Pas en disant, oui, bon, les problèmes sont là, c'est bon, je vais apprendre quelque chose, je vais passer par ces moments difficiles, je vais passer par ce tunnel, je vais passer par ce pénombre. Ah oui, c'est bon. Ah, oh, ça me fait du bien d'avoir mal. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? La Bible dit que Dieu a pris tout. Dieu s'est fait malédiction afin que nous soyons une source de bénédiction. Il n'a pas dit, vous allez apprendre par le malheur. Non. Des fois, le malheur nous fait apprendre quelque chose. Nous fait apprendre qu'il faut écouter Dieu. Comme je dis souvent, et ça, c'est mon credo, ça, c'est ma manière de dire, Dieu n'échoue jamais, mais nous faisons échouer Dieu. Parce que nous prenons des fois des voies que Dieu ne veut pas que nous prenions. Il y a une chose que Dieu ne peut rien faire. Ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. Comprenez bien cela. Dieu ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. C'est nous qui faisons échouer Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Par ce message, je vais vous montrer deux types de personnes qui ont fait échouer Dieu et un qui n'a pas fait échouer Dieu. Où sa vie est passée peut-être par des tribulations, pas peut-être, a passé par des tribulations. Mais quand nous voyons la fin de sa vie, il a été une bénédiction pour toute sa famille. Mais pourtant, quand nous regardons son histoire, sa vie, on dit c'est pas possible. Mais pourtant, il avait confiance en Dieu. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Et moi, je crois que des fois, quand nous échouons dans notre vie, ou quand nous nous lassons de Dieu, nous nous lassons de la vie chrétienne, c'est parce que nous n'avons pas d'objectif. Nous ne savons pas où aller. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 33:3, il dira « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. » Vous savez, Dieu veut que nous passions du temps avec lui. Dieu veut que nous passions du temps dans la parole de Dieu, afin de le connaître personnellement. Pas que moi, je vous dise comment est Dieu. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, ils sont baptisés, ma fille est baptisée, je lui dis, tu sais, tu as fait un grand pas, mais maintenant tu feras un plus grand pas, parce que tu auras une expérience personnelle avec elle, avec Dieu. Parce que chacun doit avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas courir avec la foi de quelqu'un. Nous ne pouvons pas marcher dans la vie chrétienne avec la foi de quelqu'un. Nous ne pouvons pas être guéris parce que la foi de quelqu'un nous a aidés à être guéris. C'est bien ça pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme cet homme. Ce lépreux, il ne savait pas qui il était. Il savait qu'il était Jésus. C'est pour ça qu'il pose cette question. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que lui, il savait qu'en lui, il pouvait avoir quelque chose. Mais il ne savait pas quelle était la volonté de Dieu. Mais là, je parle aux chrétiens. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Un jour, quelqu'un me posait la question, mais pourquoi ? Ceux qui ne croient pas Dieu, Dieu les guérisse plus rapidement que ceux qui croient en Dieu. Je vais vous donner la réponse. Parce que ceux qui croient en Dieu compliquent la foi. Cherchent à trouver la guérison à la place de trouver le guérisseur. C'est ça qui fait la différence. Que ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand vous leur parlez de l'amour de Dieu et de la guérison, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Parce que Dieu a préparé déjà leur cœur. Mais quand vous parlez à un chrétien, en disant « Oui, Dieu peut te guérir » ou « Dieu peut te... » Tu peux parler en langue. « Ah, mais tu comprends, mais la parole dit ceci, la parole... » Il y a tellement de versets, il y a tellement de mécanismes dans la tête qui compliquent les choses. C'est pour ça, moi, j'aime parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est tellement facile de leur parler de Dieu, de l'amour, de ce qu'il a fait. Mais allons revenir à cette histoire. Parce qu'elle est vraiment... Très belle cette histoire-là. On va revenir à ce lépreux. Comme je disais, beaucoup de gens savent que Dieu peut tout faire. Que Dieu est celui-là et le Dieu de l'impossible, qui rend les choses possibles. Chacun de nous connaissons la capacité de Dieu qui peut résoudre. Mais est-ce que nous savons ce qu'il veut? Une fois, je rencontrais un frère en Christ, il me dit, Pat, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la volonté des hommes. Alors il faut les laisser. Mais j'ai dit, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit une chose. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'aucun périsse, mais qu'ils aient tous la vie éternelle. Je sais que Dieu ne va pas à l'encontre de notre volonté. Mais quand je regarde dans Jonas, je suis surpris quand même. Jonas était un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Vous le connaissez tous, l'histoire de Jonas. Moi, je me base dessus quand je prie pour les gens. Auxquels, que ce soit chrétien ou non chrétien, où les gens disent « Oui, mais tu ne peux pas aller contre la volonté. » Pourtant, Dieu a bien été contre la volonté de Jonas. Jonas a bien fait, a dit « Moi, j'y vais pas. » Il est parti de l'autre côté. Vous savez, c'est vrai que Dieu ne va pas contre la volonté de quelqu'un. Mais Dieu peut faire en sorte d'amener quelqu'un dans des problèmes pour aller à sa volonté. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous dire une chose. Et ça, c'est un petit secret. C'est gratuit aujourd'hui. Croyez que Dieu peut changer les choses. Croyez que Dieu peut aller contre la volonté de quelqu'un. Comment ? En lui mettant des embûches sur embûches. Pas Dieu, mais les embûches. Mais eux, ils feront en sorte d'avoir des embûches. Et là, ils feront comme Jonas a fait. Seigneur, sors-moi du ventre du poisson. Je vais faire ta volonté. Parce que ne croyez pas. Ce que Dieu a préparé, Dieu va le faire. Il n'y a qu'une chose qui s'oppose à la volonté de Dieu sur un homme, sur sa destinée. Vous savez, c'est quoi ? C'est quand il meurt. Après la mort, on n'a plus rien. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien changer. Mais quand vous êtes vivant encore, moi, j'ai, comme je disais, il y a le témoignage de mon petit frère. Mon petit frère, ça faisait 10 ans qu'il avait abandonné Christ. Les gens me disent, c'est fini. Il dit, alors si vous dites que c'est fini, alors c'est que c'est là que tout commence. Parce que c'est bon quand c'est fini. Parce que c'est là que Dieu agit. Beaucoup de gens veulent aider Dieu. Mais écoutez-moi bien, on n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui fait à sa manière comme il veut. Ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux choses. Ne regardez pas à ce que les gens peuvent vous dire. Parce que malheureusement, à la place que quelqu'un va t'aider, il va t'enfoncer. Et ta prière va avoir du mal à monter parce que tu vas prier avec incrédulité, parce que tu vas entendre ces paroles. Moi, comme je dis souvent, je mets une... comment on appelle ça ? Une antipollution à mes oreilles. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, je le rejette. Tout ce qui vient de Dieu, selon la parole, je la prends. Mais je ne prends pas toute parole des hommes pour évangile. La seule parole qui est évangile, c'est cette parole-là. C'est ce que Dieu a dit. Et j'ai vu Dieu agir dans la vie des gens. J'ai vu Dieu faire en sorte qu'une personne qui ne voulait pas servir Dieu, sert Dieu. Je vais vous donner un exemple, moi-même. Quand Gladys m'a parlé de Dieu, je ne voulais jamais venir à Dieu. Elle dit, c'est pas possible. Pourtant, elle va me dire, mais Pat, Dieu ne peut pas aller contre ta volonté. Et pourtant, aujourd'hui, je suis bien celui qui prêche, non ? Pourtant, je peux vous dire une chose. C'est pas ce que je voulais. Hein. J'avais d'autres projets, d'autres vies, d'autres choses à penser. C'est pour ça, ne doutez jamais. Tout à l'heure, quand il y avait la chanson, quand je priais, je ressentais qu'il y en a plein qui croient en Dieu, mais qui doutent de Dieu. Comme cet homme qui dit, si tu le veux, tu peux. Sachez une chose, Dieu veut le meilleur pour vous. Dieu se soucie plus de vous que vous vous souciez de vous-même. Des fois, moi, je m'inquiète pour mon poids. Les enfants se moquent de moi. Ils me disent, ah, Pat, mais t'es pas... Bon, je ne dirai pas ce qu'ils disent, mais bon. Mais je m'inquiète des fois pour mon poids. Vous pensez que Dieu ne s'inquiète pas pour vous aussi ? Nous qui nous occupons de notre corps charnel, croyez que Dieu ne s'inquiète pas pour vous ? Vous croyez que quand vous marchez, quand par exemple à la maison ça ne va pas, Dieu dit « Mais non, t'inquiète pas. » Dieu dit « Oui, il ne se soucie pas de toi. » Mais vous pensez cela ? Mais Dieu est amour. Dieu se soucie de chacun de vous, du plus petit détail que vous ne pensiez même pas imaginer. Sachez-le, Dieu vous aime. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est pour ça que j'aime ce que dit cet homme. Si tu le veux, tu peux. Et Jésus dit « Oui, je le veux. » Oui, je veux changer votre vie. Oui, je veux changer votre manière de penser. Dans ce monde, nous pensons d'une manière. Nous disons oui, si on dit cela, ça ne va pas arriver. Moi, j'ai des collègues. Dès qu'ils ont une bonne nouvelle, il ne faut pas dire. Ils disent, ah, tu vas me porter le chat noir, tu vas me porter ceci. Je dis, ah bon ? Je dis, où tu as vu ça ? Ça, c'est les croyances, ça. Mais c'est faux. Parce que la Bible dit quoi ? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangent le fruit. Tout ce qu'on va dire va avoir des percussions dans nos vies, des répercussions. Comprenez bien, si demain vous proclamez le malheur va arriver. Ce n'est pas Dieu qui le veut, mais c'est vous. Si vous proclamez la défaite va arriver. Mais si vous proclamez la victoire. Tout à l'heure, quand je vais raconter l'histoire de cet homme, lui qui était dans des circonstances contraires, tout était à l'opposé. Mais il avait eu la révélation de Dieu. Il savait ce que Dieu veut pour notre vie. Lui, il savait ce qu'il avait, ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour vous? Moi, je crois que chaque personne qui est là a un but, que Dieu a un but pour leur vie. Ce n'est pas un hasard qu'on soit dans cette église. Ce n'est pas un hasard quand on vient. Les gens pensent que la vie est faite de hasard. On marche dans la rue, on rencontre quelqu'un. Ah tiens, je suis amoureux d'un tel et un tel. Mais non, ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas ce qu'on croit. Moi, je ne crois pas en cela. Je crois en une rencontre divine. Quand nous regardons Joseph, son histoire, c'est de cette histoire-là que je vais parler. Parce que ça nous montrera beaucoup de choses. Et nous fera comprendre combien Dieu est bon. Mais je vais rester encore un peu sur cette histoire-là. Pourquoi? Parce que cet homme disait, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a une autre histoire, l'histoire de Nicodème, dans Jean 3. Le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Et Nicodème arrive et dit, mais est-ce qu'il faut qu'on rentre dans le ventre de notre mère? Et Jésus dit une parole qui est forte et que j'aime beaucoup. Et des fois que je me remets en question, parce que la Bible dit, examinez. Vous pour voir si vous êtes dans la foi. Jean 3, verset 10. Parce que quand c'est Jésus qui parle, c'est mieux. Jésus leur répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Moi, j'aimerais vous poser la question. Vous êtes des chrétiens. Vous ne savez pas ce que Dieu a pour vous. Vous ne savez pas que Dieu veut le meilleur. Le malheur arrivera. Je vous dis pas que le malheur n'arrivera jamais. Parce que nous vivons dans ce monde. Il y a des lois, il y a des choses qui a des problèmes. Parce que dire que je n'ai pas de problème, ça serait mentir. Je ne vivrai plus dans ce monde. Je vivrai dans le ciel. Mais il y a des problèmes. Parce que le jour où Adam et Ève ont péché, le problème est rentré. Le jour où vous êtes nés, il y a déjà eu un problème. Parce que quand vous êtes sortis, vous avez crié. Vous avez dit, oh, ça y est, tout commence. Non, je veux revenir. Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, on est bien. On est nourri, on est bien, on n'a pas de soucis de la vie. Mais dès qu'on sort, on crie. Je me posais cette question et j'écoutais un prédicateur qui disait ça. Il dit, quand vous êtes sorti, vous avez déjà crié. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le problème arrive. Les problèmes de quoi? De la vie. Les problèmes du travail. Les problèmes de l'éducation des enfants. Le problème du mariage. Tous ces problèmes-là. Mais je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la solution. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu le veux, tu le peux. Nous devons chercher ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, il y a des choses qui sont spécifiques. Moi, demain, je cherche par exemple, je vous donne un exemple. Je cherche une solution pour mon mariage. J'ai des problèmes dans mon mariage. Je ne vais pas aller chercher des versets dans la guérison. Dans la guérison de la maladie. Ça n'a rien à voir. Mais je m'accroche à la parole qui dit que ce que Dieu a lié, que personne ne puisse le délier. Ce que Dieu a joint, que personne ne puisse le déjoindre. Vous voyez, toutes ces choses. Et ça, c'est important. La parole est spécifique. Dieu est spécifique dans ces choses. Nos requêtes de prière doivent être spécifiques aussi. Si demain, vous devez aller à Paris, vous n'avez pas d'abord descendre à Nice et pour remonter à Paris, vous prenez la bonne direction. C'est la même chose. Cette parole nous dit comment faire. Je vous dire une phrase que, quand je lisais le livre de Smith, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui correspond à ce que je pense de la vie chrétienne. Vous ne connaîtrez pas la puissance de Dieu et la nature de Dieu à moins de vous nourrir de sa parole inspirée. Nul de vous ne peut être fort en Dieu à moins d'écouter assidûment ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Par rien d'autre. Pourquoi il dit qu'il faut être fort? Comment vous voulez répondre aux problèmes des gens de dehors si vous ne connaissez pas votre Dieu? Si vous ne savez pas comment Dieu va agir? Moi, je vous pose la question, comment vous feriez? Nous, on est face à une situation, ma femme et moi, où on a un neveu qui est malade. Il a une maladie génétique. Il y a 7 ans, on était partis en vacances à Nîmes. On avait prié pour lui. Pendant 4 ans, il n'a plus rien eu. Aujourd'hui, il retombe malade. Vous pensez quoi? Vous pensez que je veux dire, ah Seigneur, t'as échoué? Non. Avec Laïs, on a dit, on va prier encore, et encore, et encore. Parce qu'on sait que Dieu est la solution. Il n'y a que Dieu qui est la solution. Vous savez, Gladys parle souvent de Dieu à sa sœur. Sa sœur l'écoute seulement. Mais si par ce moyen-là, Dieu peut toucher sa sœur, je dis Amen. On ne sait pas comment Dieu fait, mais on sait que quand Dieu fait quelque chose, il le fait mieux que nous. Moi, je crois en ce qu'un jour un serviteur m'a dit. Dieu peut faire, non, le Saint-Esprit peut faire en 5 minutes plus que nous en 5 ans. Lâchez vos bagages, lâchez, laissez tous vos problèmes et donnez-les à Dieu, réellement. Moi, je vous le dis, donnez-le à Dieu parce qu'il est vraiment la solution. Ne croyez pas que nous passons par des choses simples dans la vie. Beaucoup de gens pensent que ceux qui prêchent, ceux qui parlent de la parole de Dieu, ont une vie tranquille. Ils restent à la maison, ils dorment. Ils disent oui, les problèmes, c'est pour les petits chrétiens. Mais c'est faux. Parce que plus vous connaissez la parole de Dieu, plus les problèmes sont là. Parce que là, le diable va vous éprouver. Sachez une chose, le jour où vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes devenu sur la liste rouge du diable. Et s'il peut vous dégommer, il va vous dégommer. Excusez-moi pour le terme. Mais il va vous dégommer, je peux vous le dire. J'en ai vu, moi, des gens qui étaient pleins de zèle. Et ils ont glissé. Ils ont du mal à revenir. Vous savez pourquoi ? Pour la seule chose, la culpabilité. Mais s'ils connaîtraient la parole de Dieu, s'ils savaient ce que Dieu disait. Dieu dit, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice. Pourquoi il dit ça ? Imaginez-vous, un esclave, c'est celui qui a des chaînes. On est d'accord ? Quand il est venu, il a libéré cela. Mais il a dit, maintenant vous êtes esclaves de la justice. C'est-à-dire que ces chaînes qui nous tiennent, c'est la justice. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, bien ou mal, j'ai bien dit bien et mal, j'ai pas dit mal et bien, bien et mal, vous êtes juste devant Dieu. Pas parce que vous faisiez du bien, pas parce que vous faites le mal, vous êtes juste parce que le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Parce que la Bible dit une chose qui est vraie. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour sauver. Le temps du jugement n'est pas venu. Mais le temps de la rédemption est venu, où Dieu veut nous sauver. Comprenez bien cela. Beaucoup de chrétiens, justement, ont du mal à prier parce qu'ils culpabilisent en disant « Oui, ah, j'ai pas bien fait, j'ai mal agi. » C'est ça que je veux dire. Si tu le veux, tu peux. Des fois, nous arrivons devant Dieu, on dit « Tu peux faire ça, mais est-ce que tu le veux réellement ? Parce que regarde comment je suis. Je ne suis pas parfait. Je fais toujours des fautes. Ou est-ce que vraiment tu veux ? Mais Dieu ne peut pas. Parce que la Bible dit « Sans la foi ». Il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est quoi avoir la foi ? La foi, c'est savoir que Christ est mort pour chacun de nous, pour chacune de nos péchés, passé, présent et futur. Et les gens oublient cela. Dieu pardonne aussi le péché, parce qu'on fait tous des erreurs. La Bible dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, que nous serons parfaits seulement quand nous serons dans le ciel. Et nous l'oublions cela. C'est pour ça que des fois, pas que Dieu n'exauce pas nos prières, mais que nous faisons échouer Dieu dans nos prières. Parce que nous nous culpabilisons tellement. Parce que l'arme première du diable, c'est de culpabiliser. Regardez Adam, quand il a fait une erreur, il s'est caché. Est-ce que le Seigneur ne savait pas où il était ? Le Seigneur, vous croyez qu'il s'amuse à dire « Où es-tu ? Où es-tu ? » Imaginez-vous, moi des fois avec ma fille, je suis là, elle s'amuse, elle court partout, elle se cache. Mais moi je la vois. Je lui dis « Où es-tu ? Où es-tu ? » Mais je sais où elle est. C'est comme Dieu, vous croyez qu'il ne sait pas où vous êtes ? Il savait où était Adam. Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'Adam dise ? Il ne voulait pas qu'il dise Adam ce qu'Adam a dit. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Oh malheur ! Moi je suis sûr, et ça je le crois, que s'il avait dit « Seigneur pardonne-moi, j'ai mangé le fruit que tu m'as défendu », Dieu l'aurait pardonné, parce que Dieu pardonne. Mais bon, gloire à Dieu, il a préparé une issue de secours qui est en Jésus-Christ. Et c'est encore mieux pour nous, parce que maintenant nous pouvons marcher avec certitude, avec assurance. Et avoir le privilège de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est ça que je veux vous expliquer. Mais comment ? Pourquoi cet homme, ce centenier, qui n'était même pas juif, avait plus de foi que tous ceux qui connaissaient la parole de Dieu ? Parce que lui, il savait quelle était la volonté de Jésus sur cette terre. Il le savait. Regardez, on va le voir. Dans Luc 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour aussi cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot de Dieu, et toute notre vie est changée. Le jour où on m'a dit « Jésus t'aime », je dis à la personne « Va t'asseoir un peu, tu vas être fatigué ». Mais je crois que ce mot-là a fait comme écho dans toute ma vie, dans tout mon corps. La Bible dit que la parole de Dieu, son vie, elles sont vie. Ce n'est pas seulement des mots, il y a quelque chose derrière, parce que c'est Dieu qui fait. Et cette parole est tombée dans mon cœur. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Je crois qu'athée plus athée que moi, il n'y avait pas. Mais il y a quelque chose qui a touché le plus profond de mon cœur, qui a changé ce cœur de pierre en cœur de chair. Ça a résonné au plus profond de nous-mêmes. C'est sur chacun de nous. Et comme dit cet homme-là, il dit, ayant entendu parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs de Jésus, quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Vous savez, cet homme, il avait une chose qu'ils n'avaient pas les Juifs à l'époque, que certains Juifs refusaient à admettre, c'est qu'ils savaient que ce Jésus pouvait guérir et qu'il le voulait surtout. Pourquoi Jésus lui dit : Je n'ai jamais vu un homme de cette nation avoir autant de foi. Ce centenier comprenait c'était quoi un mot, un ordre. Il savait que Jésus disait un mot et tout allait changer. Tout allait changer. Il savait ce que Dieu pouvait faire et ce que Dieu voulait faire. Comme je le disais, si tu le veux, ce centenier le savait. Pourquoi ? Il avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus allait le guérir. Il savait que Jésus, partout où il marchait, il y avait quelque chose qui allait se produire. C'est pour ça qu'il dit, moi qui suis centenier, si je dis à mon serviteur, va, il va. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu le fait. Dieu le fait. Mais le problème qu'on a, nous, c'est que nous, on ne veut pas que Dieu le fasse comme lui veut. Mais nous, on veut qu'il fasse à l'instant. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème. Pourquoi Dieu dit, apprenez à être patient. Apprenez la longanimité. Un jour, j'étudiais, je disais, mais c'est quoi la longanimité? La patience longue. Je dis, mais attends, être patient, c'est déjà long. Alors, patience longue, c'est encore plus long. C'est-à-dire que nous devons patienter. Patienter quoi? Pas que Dieu exauce. Parce que Dieu a déjà exaucé. Mais l'accomplissement de l'exaucement, c'est ça qui fait une différence. Nous sommes trop au micro-ondes maintenant. Ah, nous aimons faire des repas vite fait. Moi, des fois, quand je pars travailler, j'ai dit, bon, prépare à manger. Quand elle me dit, ah, il me faut quand même une demi-heure, une heure, j'ai dit, bon, écoute, on va chercher un chez Picard, parce qu'il y a des amis qui m'ont invité chez Picard depuis que je connais Picard, alors j'y vais tout le temps. Alors je mets ça en 5 minutes, comme ça, je mange. Des fois, c'est bon. Non, c'est bon. Mais ce que je veux dire, on veut tellement tout de suite. Comme dans la prière. Nous voulons tellement les choses rapidement. Mais réfléchissez. Dieu n'agit pas de la même manière que nous. Pas de la même manière que nous pensons plutôt. Bien sûr que Dieu veut que cet homme soit sauvé. Bien sûr que Dieu veut que nos familles soient tous sauvées. Mais pourquoi il ne les sauve pas? Moi, je vous pose la question. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. C'est ça qui fait la différence. Parce que nous dire, mais Pat, mais ce que tu dis est faux. Non, la Bible dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et Dieu dit, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Il ne dit pas, je vais les sauver. Il dit, sont sauvés. Parce que ce que Christ a accompli sur la croix, il ne l'a pas accompli seulement pour nous. Pas seulement les chrétiens qui sont là. Parce que je peux vous dire, il y a une multitude dehors qui nous attendent. Et moi, je crois en cela. Je crois que cette église sera pleine. Pas plein de chrétiens, mais plein de gens qui ont besoin de Dieu. La dernière fois, j'étais là avec un technicien là, pour l'ascenseur. C'est un musulman. Oh, on a bien parlé de Dieu. On a parlé de Dieu. On est resté une heure. Là, il m'a appelé 3 fois au téléphone. J'ai attends, je suis avec le technicien. Et on parlait de Dieu, on parlait de Dieu. Il me racontait sa vie. Il dit, c'est bien ce que tu dis. Mais toi et moi, il y a bien un de nous deux. On le sait qu'il y en a un qui est dans l'ironie. Dans l'erroné. C'est ça quoi? Dans l'erreur. Merci beaucoup. Dans l'erreur. Il ne voulait pas me dire qui c'était. Il dit, ah, moi je suis pour la paix. Moi je dis pas, je ne suis pas pour la paix, moi. Je suis venu pour t'apporter la vérité. La paix, c'est pour ceux qui veulent caresser les choses. Nous ne sommes pas là pour caresser. Nous sommes là pour dire ce qui est vrai et faux. Un jour, quelqu'un me posait la question. Pourquoi penses-tu que Jésus est le vrai Dieu? Parce que j'ai dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mahomet, il n'a pas dit que c'était le chemin. Il a dit, je vous amène dans un chemin. Bouddha n'a pas dit qu'il était la vérité. Il a dit, je cherche la vérité. Mais Jésus, il a dit, je suis la vie. Voilà la vraie réponse. Alors utilisez cela pour prêcher l'évangile. Parce que moi, je crois qu'il faut prêcher l'évangile. Moi, je crois qu'il faut témoigner de Dieu. Parce que cette église, et c'est là où je vais venir sur la volonté de Dieu pour chacun de nous, cette église, elle ne sera remplie pas seulement parce que nous prions, mais elle sera remplie aussi parce que nous témoignons. Imaginez-vous là, on est combien là? On est 50? Chacun ramène une seule personne, ça fait combien? Ça fait 100. Et maintenant que les 50, allez, il ne reste plus que 30 qui restent, plus les 50, ça fait 80, qui ramène encore une personne, ça fait bien 160. Vous êtes d'accord? Et dans les 160, il y en a toujours 10, 20 qui ne veulent plus écouter. C'est vrai. Non, mais c'est la réalité, ça. Faut pas rêver. C'est la réalité. Sur les 160, allez, il en reste 140. Les 140 ramènent une personne encore. Ça fait combien? 280. La multiplication est facile et facile. Mais nous, est-ce que nous savons ce que Dieu veut? Moi, je vous pose la question. Est-ce que nous savons que Dieu veut sauver tout le monde? On se dit, ah, tu sais, si je témoigne, ils vont encore me regarder. Peu importe comment ils vous regardent. Peu importe. Smith, il dit une phrase qui est belle. Il dit, vous savez, si nous devons nous préoccuper de ce que les gens pensent, jamais Dieu ne nous utilisera. Jamais. Sachez-le. Un jour, il prie pour quelqu'un qui avait des problèmes de dos, d'une hernie. Il arrive, il prie pour lui. Le lendemain, cet homme arrive en courant dans le truc, en disant, t'es un menteur. Regarde, j'ai encore mal. Il dit, non, c'est toi qui n'as pas cru. Viens ici. Il prie pour lui. Le lendemain, il est sur les rails, il dit, qui a un témoignage? C'est cet homme qui court. Il vient et dit, oui, j'ai un témoignage. Depuis 7 ans, je ne pouvais plus me plier. Et là, j'ai aidé mon beau-frère à porter des ciments. Et je me suis rendu compte que j'avais plus mal. Voilà la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour les Smith, ce n'est pas seulement pour les Kenneth, ce n'est pas seulement pour les Jerry Savelle, ce n'est pas pour tout cela, c'est pour chacun de vous. Ce n'est pas spécialement Bénin qui apportera la guérison, mais c'est si vous croyez. Regardez ce que dit Marc 16, il dit, si tu crois, tu imposeras les mains aux malades. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit si les ministres croient, si les grands hommes de Dieu croient. Il dit si tu crois, parce que la parole, elle parle pour nous. Parce que je crois que chacun a la même parole chez lui, non? Il dit bien, si tu crois. Quand vous la lisez, il parle à qui? Il parle à moi. Il dit pas, si pas de croix. Il dit, si tu crois. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Gloire à Dieu pour ces hommes, parce que Dieu les utilise. Gloire à Dieu pour ce qu'ils font, parce que Dieu les utilise. Mais ce que je veux dire, la guérison, c'est à vous de la chercher. C'est à vous de la chercher. J'ai vu tellement de gens courir et courir après des serviteurs et des serviteurs pour avoir la guérison. C'est ça qu'on appelle quand ils cherchent la guérison, ils ne cherchent pas le guérisseur. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut que nous le connaissions, lui. Parce que la vie éternelle consiste à quoi? À connaître le Dieu véritable qui est Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Parce que quand vous connaissez Jésus, vous connaissez la réponse à vos problèmes. La solution arrive. Ne vous inquiétez pas, la solution arrive. Je sais que ce n'est pas facile. Ne croyez pas qu'on n'a pas passé des moments difficiles. Ne croyez pas que je ne passerai pas par des moments difficiles encore et encore. Parce que je sais qu'après cela, il y aura encore des moments difficiles. Parce qu'après chaque victoire, une épreuve nous attend. Et après une épreuve, une victoire. Après une victoire, une épreuve. Mais sachez une chose. La fin de cette histoire dit que nous, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je comprends pourquoi Tim disait, la dernière fois qu'il avait prêché, il disait, nous connaissons la fin. Nous connaissons l'issue. Le diable aussi connaît l'issue. C'est pour ça que lui ne perd pas le temps. C'est pour ça que le Seigneur dit, rachetez le temps. On n'a pas le temps de s'inquiéter pour nous-mêmes. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître toutes choses à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse tranquille? Non, parce qu'il dit, je prendrai soin de vous, moi. Il a dit ça, je prends soin de vous. Il n'a pas dit, bon, tu es dans tes inquiétudes, je te laisse dans tes problèmes, vas-y, j'ai autre chose à faire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ces hommes. Pourquoi il donne tellement de paraboles sur le juge, sur le boulanger, sur tout cela? Pourquoi il donne ces paraboles-là? Pour expliquer que eux, même leur patience ont une limite. Mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Parce que lui, c'est lui qui vous attend. La Bible dit, approche-toi de l'Éternel et il s'approchera de toi. Pourquoi il s'approchera de toi? Parce que c'est lui qui t'attend. Regardez le fils prodigue. Le fils pensait que Dieu l'avait oublié, que son père l'avait oublié. Ouais, moi j'ai fait mon chemin, mais je pense qu'il m'a oublié. Mais chaque jour, il venait. Chaque jour, il l'attendait. C'est la même chose pour chacun de vous. Dieu vous attend chaque jour. Venez à genoux devant sa présence. Passez du temps avec lui et vous trouverez la réponse à vos problèmes. Et ce centenier, il avait compris une chose. Il avait compris que lui, en tant que centenier, qui avait une grande garnison, il commandait à quelqu'un, il savait que ça allait être fait. Il savait aussi le pouvoir qu'avait Jésus. L'autorité plutôt, dirions-nous, que Jésus avait. C'est pour ça, Jésus a été stupéfait par sa foi. Parce qu'il dit, comment cet homme, qui ne connaît ni les Écritures, qui ne connaît pas les Écritures, parce que cet homme ne connaissait pas. Parce qu'à l'époque, les Juifs gardaient tout pour eux. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais pourquoi? C'est à cause de vous que les autres ne rentrent pas dans le royaume des cieux. C'est à cause de vous, race de vipères. Mais lui, il savait. Et c'est ça qui me stupéfait. C'est que cet homme qui ne connaissait pas Dieu, mais savait que Jésus pouvait changer sa vie et pouvait faire quelque chose avec une seule parole. J'aimerais vous dire que si vous connaissez le plan de Dieu dans votre vie, et si vous ne connaissez pas le plan de Dieu, que ceux qui ne connaissent pas fassent comme Jérémie dit, invoque-moi et je te répondrai. Il y a un verset qui dit dans Jérémie 29:11, je vais vous le lire. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, je ne parle pas de la volonté spécifique. Il y a des gens où la volonté est spécifique pour certaines choses. Là, je parle d'une volonté générale. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi l'espérance? Parce qu'il y a des moments dans notre vie où rien ne va. Mais Dieu dit, moi je te donne de l'espérance. Parce que si tu espères en moi, tu trouveras la solution. Je vais parler de cet homme que j'aime beaucoup, qui est dans la Bible, que quand je le rencontrerai là-haut, je lui poserai des questions. C'est Joseph. Vous savez, Joseph, tout le monde connaît son histoire, n'est-ce pas? Alors on va abréger vite fait alors. Cet homme était le dernier, l'avant-dernier fils. Les frères l'ont jeté, l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans des situations impossibles. Impossibles. Dans des circonstances impossibles. Parce que Dieu lui avait donné un rêve. Mais il a tenu ferme. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Parce qu'il connaissait ce que Dieu voulait exactement pour lui. C'est ça qui fait la différence. Nous devons connaître ce que Dieu a pour nous. Et ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. Comme je vous disais tout à l'heure, si Joseph ne connaissait pas la volonté de Dieu, je pense, et je le crois, qu'il aurait baissé les bras. J'aime un proverbe qui dit ça dans 29:18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une autre version dira le peuple périt. Si vous n'avez pas la révélation de Dieu pour votre vie, à un moment donné, à un autre, vous allez vous lasser. Sachez qu'on court pour un but. Malheureusement, les gens ne connaissent pas ce but-là. Bien sûr que le but, c'est avoir la vie éternelle, courir après ses courants de vie. Mais Dieu a aussi autre chose pour vous. Dieu vous utilise des miracles que vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu ne veut pas seulement utiliser Bénin. Moi, je crois qu'on va arriver justement dans cette église primitive où les gens pouvaient prier pour n'importe qui, il y avait des guérisons et des miracles. Parce que la différence, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais c'est Dieu. Joseph, il marchait. Mais Joseph savait le plan qu'il avait pour lui. Il le connaissait. C'est pour ça que jamais, oh jamais, il n'a abandonné. Il y a un verset que j'aime dans cette histoire de Joseph. Il dit, je vais vous le lire, Genèse 39, verset 2. Là, Joseph était déjà un esclave à cette époque-là. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La prospérité l'accompagna. Beaucoup de gens, quand ils parlent de la prospérité, ils pensent à la manne financière. Mais je peux vous dire, la vraie prospérité, la réelle prospérité, c'est de connaître Christ. Parce que c'est lui qui donne tout. C'est de lui que vient tout. Joseph, à cette époque-là, je ne pense pas qu'il devait être prospère hein, quand il dit ça. Parce qu'il était un esclave. Imaginez-vous être un esclave. Et pourtant, la Bible dit qu'il était prospère. Parce qu'il savait qu'avec le Dieu en qui il a cru, il allait agir dans sa vie. Il allait pourvoir tous ses besoins. Et quand nous regardons sa vie, il n'a fait que prospérer. Partout, tout ce qu'il toucha, il prospéra. Pourtant, ce qui est étonnant, et c'est ça qui des fois me remet en question, il n'a jamais perdu l'espérance. Il a toujours cru en Dieu. Toujours, toujours. Pourquoi ? Parce qu'il avait une dépendance de Dieu. Il ne voulait faire que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Regardez ce que dit Jésus à la fin. La plus belle prière qu'il ait faite. Et celle que j'aime. Père, tout ce que tu m'as dit de dire, je l'ai dit. Tout ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Je n'ai perdu que celui-là, que le fils de la perdition que je devais perdre. Comprenez bien, même Jésus, pour qu'il arrive au bout, il devait savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Regardez sur Gethsémané. Il arrive au bout et dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Imaginez-vous, cet homme sans péché, même il a refusé de la boire, cette coupe. Je dis, non, Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on peut aussi arriver à bout. Mais lui, il a continué. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Parce que par sa résurrection, nous avons tous la vie éternelle. C'est pour ça qu'il allait au bout. C'est pour cela que nous devons avoir de l'espérance. Nous devons comprendre quel est le but pour nous. Parce que nous avons été créés pour un but divin. La Bible dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour chacun afin qu'il les accomplisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bénin, Rainer Bonnke ne font qu'une seule chose, obéir à Dieu. Ils n'ont pas un don exceptionnel. Ils ont une chose, ils ont choisi d'obéir à Dieu, d'être fidèles à Dieu. Regardez Tim, un exemple. Tim a fait le choix de venir en France. Je vous pose la question maintenant. S'il n'avait pas fait le choix de venir en France, est-ce que je vous connaîtrais ? Est-ce que vous me connaîtrez ? Comprenez bien une chose. Quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, il n'y a pas d'effort à faire. Les gens voient la prière comme un effort. C'est faux. La prière est une relation. La prière, c'est parler comme je vous parle là. C'est ça la prière. Nous ne devons pas essayer de faire les choses. La Bible dit en Éphésiens 5, 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Connaissez quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Parce que quand vous la connaîtrez, vous ne serez pas comme ce lépreux qui dit « Si tu le veux, tu peux. » Non, vous direz « Oui, je sais que tu le veux et tu vas agir. » Ça, c'est la différence. Ça, c'est des paroles de foi. C'est des paroles qui vont changer votre atmosphère, qui vont changer votre environnement, votre manière de parler, votre manière de penser. Parce que c'est Dieu qui fait tout en tous. Nous ne sommes rien. Moi, j'ai eu l'opportunité, le privilège de pouvoir rencontrer un homme que Dieu utilisait puissamment dans les guérisons et tout. Et je parlais avec lui. Je lui dis, mais comment tu arrives à rentrer dans une telle communion avec Dieu ? Comment tu fais en sorte que les gens sois guéri comme ça, qu'il y ait des miracles. Il me dit, Pat, je ne fais rien. Je me confie en Dieu. Il me racontait une histoire qui m'a bouleversé. Pourtant, il avait eu des guérisons sur guérisons. Il était en Inde. Il y avait un homme qui arrive. Parce que l'Inde avait fermé sa salle. Il ne pouvait pas prêcher l'évangile. Il devait prêcher dans un grand stade. Il lui a dit, il n'y a pas de souci. Ils ne veulent pas qu'on aille dans un stade. Bon, on va aller dans la rue. Alors, ils ont commencé à préparer l'évangélisation, tout ça. Et ils arrivent, tout. Il y a plein de gens qui arrivent. Et là, ils parlent de la guérison. Il y a un homme qui se lève. Il avait sa jambe entourée sur du bout de bois. Vous savez ? Et il n'y avait plus de flexibilité, il n'y avait plus d'os. Qui était entouré sur une canne. L'homme arrive et dit, tu parles de guérison. Alors vas-y. Là, il est arrivé. Il dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi là, je suis fini là. Je suis mort, il faut que je fasse mon testament. Le Seigneur a dit, crois en moi. Il dit, ok. Il est arrivé, il a prié pour lui. Bam, il est tombé. La personne s'est couchée pendant une heure. Il a continué à prêcher l'évangile. Il ne s'est même pas soucié de lui. Après, il voit un homme qui court. Il dit, mais c'est quoi ça? Et c'est cet homme-là qui courait. Vous voyez ce que Dieu peut faire quand vous croyez et quand vous savez ce que la parole de Dieu dit. Il me dit, il n'y a pas de grand sacrifice à faire avec Dieu. Que donner notre temps. C'est ça que Dieu veut. Donnez votre temps à étudier la parole. Donnez votre temps à passer du temps à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi des fois nos prières ont du mal à être exaucées? Cherchez dans la parole de Dieu. Prenez le temps. Prenez le temps. Des fois, nous prenons le temps pour cuisiner. Nous prenons le temps pour nous habiller. Nous prenons le temps pour nous acheter des affaires, pour acheter des vêtements. Nous faisons 10 000 magasins pour décorer la maison. C'est bien. Attendez, je ne dis pas que c'est mal. Mais combien de temps prenons-nous pour Dieu? Et une fois, je lisais une prophétie de Kenneth Hagin. Il disait, donnez votre dîme de temps à Dieu. Il parlait de ça. Moi, je crois en cela depuis longtemps. Je crois que nous devons passer aussi notre temps avec Dieu. Les gens me disent, mais Pat, le temps est court. Et oui, le temps est court. C'est pour ça, passe du temps avec Dieu. Parce que si tu veux faire sa volonté, tu ne le feras que si tu passes du temps avec Dieu. Parce que je crois que chacun de nous ici a des visions avec Dieu. Chacun de nous veut faire quelque chose pour Dieu. Mais si nous ne connaissons pas sa volonté, nous allons passer à côté. Comprenez bien, nous ne devons pas passer à côté de Dieu. Nicodème connaissait la parole. Et Jésus a été stupéfait parce qu'il dit, mais toi qui es docteur, moi je vous dis, vous qui êtes chrétien, vous devez grandir. Vous devez passer un cap au-dessus. Regardez ce que dit Paul. Vous qui devez être à nourriture solide, vous êtes au lait. Pourquoi? Mais pourtant, cette église, Dieu les utilisait puissamment. Si vous regardez, il y avait des guérisons, il y avait tout. Mais il dit, vous êtes encore au lait. Parce que vous voulez encore qu'on vous donne du lait. Vous ne voulez pas grandir. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne veut pas grandir. On ne veut pas connaître la volonté de Dieu parce que peut-être on a peur. Mais sachez une chose, que quand vous vous confiez à Dieu, jamais, au grand jamais, Dieu ne vous abandonnera. Dieu ne vous délaissera jamais, même si des moments où c'est difficile. Regardez Daniel quand il était à la fosse aux lions. Moi, je ne serais jamais allé à la fosse aux lions. Mais lui, il est allé. Il a dit, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que Dieu est avec moi. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il connaissait son Dieu. Soyons comme ce centenier. Que Dieu voit en chacun de nous ici une foi. Pas une petite foi. Pas une grande, grande foi. Mais la foi suffisante pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Une fois, je réfléchis, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu prends cette image du grain de sénévé? C'est tellement tout petit. Parce que Dieu te demande, mais je ne te demande pas une grande foi. Je ne te demande pas de faire de grandes choses. Je te demande seulement de croire en ce que la parole de Dieu dit. Moi, chaque fois que j'ai cru en cette parole, je n'ai jamais échoué. Mais chaque fois que je n'ai pas cru en cette parole, je peux vous dire, je me suis pris des poteaux. Comme on dit, je me suis cassé les dents. Des fois, peut-être, on a besoin de se casser les dents et de se reposer la question et se remettre en condition en disant, oui, Seigneur, je crois que là, j'ai échoué quelque part parce que toi, tu n'échoues pas. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce que nous voulons de Dieu? Est-ce que nous voulons qu'il fasse ce que nous voulons? Ça veut dire quoi? Vivre notre vie tranquille et être comme on est. La guérison, c'est une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans. Ou avoir des guérisons chaque jour. Des vies qui sont changées chaque jour. Un jour, un homme de Dieu me disait, ce qui est malheureux maintenant, et ça c'est vrai, c'est que maintenant, pour toucher une âme, il faut 3000 prédications. 3000 prédications, des fois pour toucher une âme. Et il dit, regardez Pierre, une prédication. 3000 hommes ont changé leur vie. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans ce lieu. Dieu leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez là, j'ai des choses encore à faire avec vous. J'ai des choses à vous enseigner. Ils ne sont pas levés, ils sont restés jusqu'à que Dieu leur donne le feu vert. Je vous dis la même chose. Attendez. Peut-être ce n'est pas le moment, parce que votre foi n'est pas assez suffisante. Peu importe. Moi, il y a des moments où j'ai prié pour des gens, ils sont morts. S'il fallait maintenant que je m'arrête en disant, ah Seigneur, c'est fini, maintenant j'arrête. Il y a des gens pour qui j'ai prêché l'évangile, ils sont morts. Je pourrais me condamner tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On va dire, bon, on a échoué, on s'arrête, on va au bord. Non. Dieu dit, ça ne fait rien, continue. Fais ton chemin, tu verras si tu as confiance. Moi, je crois qu'un jour, je prêcherai, il y aura 3000 âmes qui seront converties. Moi, je crois que quand je marcherai, mon ombre guérira des malades. Pourquoi? Parce que je crois en cela. Moi, je crois au réveil de ce pays. Beaucoup de gens ne croient pas en ce réveil. Eh bien, ils n'ont qu'à dormir. Moi, je crois en ce réveil. Mais nous devons aussi être réveillés. Nous devons croire. Mais comment? En passant du temps avec la parole de Dieu. En l'étudiant, en regardant la parole de Dieu. Moi, j'ai compris une chose dans la vie chrétienne. Si nous ne passons pas de temps dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. Parce que la foi n'est pas basée sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on sait, mais sur ce qu'on croit. C'est ça qui fait la différence. Quand nous prions pour quelqu'un, sur quoi nous nous basons? C'est ça que je veux dire. Sur quoi nous nous basons? Est-ce que nous nous basons sur la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire oui, je sais que Dieu va exaucer, parce que la Bible dit. Pour ça que j'aime ces réunions le mercredi soir. Parce que quand nous prions, nous nous basons sur un verset. Nous disons pas seulement, bon Seigneur, écoute, je veux que tu exauces comme cela. Non. Regardez la dernière fois, le 15. Ils étaient 35 000 à Lourdes. 35 000 à Lourdes. Pour prier une personne qui ne peut rien pour vous. Je regardais cette femme à la télé, elle disait, ça m'a fait du bien. Mais elle était toujours sur sa chaise roulante. Vous la voyez, elle était heureuse d'être partie à Lourdes. Elle dit, Seigneur, nous qui avons et nous qui connaissons le Dieu qui change la vie des gens, quand nous les voyons là, nous changeons de rue, nous disons, ah papa, c'est que si je le vois là, peut-être le Seigneur va me dire d'aller lui parler, j'ai pas envie, alors je dis, ouais, si j'échoue. Mais mon ami, jamais tu réussiras quelque chose. On m'a toujours dit, c'est quand on fait rien qu'on échoue jamais. Peu importe l'échec. Moi, il m'est arrivé une fois, je vais raconter. Mais il ne faut pas rigoler. Hein. On était dans un centre commercial et j'avais vu des cassettes de Bénin, toutes ces choses. Alors, j'étais heureux, tout. J'ai dit oui. J'étais nouveau converti. J'ai dit oui, la guérison, je le crois. On arrive, tout, on prêche à un paralytique et là. Et je lui dis, tu sais, si tu crois, Dieu va te guérir. Il me dit, mais je ne crois pas. Je dis, moi, je crois pour toi. J'ai fait comme ça. Vous savez, j'ai fait comme ça. Vous savez ce que la personne a fait? Elle est tombée. Hein. Quelle honte. Mais j'ai dit non, Seigneur, que la prochaine fois, quand je fasse cela, que je le fasse comme tu le veux. C'est ça que je veux dire. N'ayons pas une présomption de la foi. Ne croyons pas au-dessus de Dieu. Un jour, Lester Sumrall disait une phrase qui était vraie. Dans un de ses livres, il dit, vous avez besoin de grandir dans la foi. Parce qu'un jour ou un autre, un de vos proches aura besoin que vous ayez la foi. Vous avez tous besoin de travailler dans la foi. Nous avons tous besoin de connaître Dieu. Parce que ce que moi je côtoie et ce que Tim côtoie, ou vous que vous côtoyez, peut-être on ne les côtoiera jamais. Moi là, j'ai la belle-sœur de mon meilleur ami qui est à l'hôpital. Elle a eu un coma halitique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Ityliques. Ouais, elle est dans le coma. Bon, Gladys, non. Elle est dans le coma. Et j'ai dit, bon, on va prier. On a prié. Elle est ressortie. Quatre jours, ça allait et tout. Elle est retombée dans le coma. Vous pensez que je vais abandonner dans la prière? Jamais. J'abandonnerai que quand elle partira auprès de Dieu. Comprenez? Il y a des fois, c'est pas des échecs que je veux dire. C'est qu'il y a des fois, nos exaucements ne sont pas faits comme nous le voulons. Attendons, soyons patients, mais continuons à prier. Continuons, parce que Dieu a besoin de nous. Vous allez me dire, mais Dieu peut tout faire. Oui, mais Dieu a besoin de gens qui prient. Ces gens qui vivent dehors, qui n'ont rien. Si personne ne prie pour que Dieu envoie des ouvriers, qui va le faire? C'est ce que dit la Bible. Priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande. Nous devons prier Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons grandir. Nous ne devons plus être au lait. Nous ne devons plus être des bébés. En disant, oui, si tu le veux, Père, fais comme tu le veux. Non, Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut guérir chaque maladie. Parce que Dieu l'a pris sur la croix. La Bible dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Mais nous devons amener ces gens à la guérison. Nous devons les amener à Jésus-Christ, le guérisseur. Lui qui change la vie des gens. Lui qui transforme les vies. C'est à cela que nous devons faire. Mais comment nous pouvons le faire? En priant Dieu, en passant du temps avec Dieu. Moi, je vous le demande, explicitement et sincèrement, si vous voulez que cette église grandisse, grandissez dans la foi. Parce que je crois qu'on a besoin de grandir dans la foi, chacun de nous. Parce que quand les gens viendront, Tim ne pourra pas prier pour tout le monde. Mais vous, vous devez prier pour chacun. Comprenez? C'est très important. Si nous sommes des gens de foi, nous allons faire exploser cette église. Nous allons faire exploser le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné vie, souffle de vie pour une seule chose. Pour dépouiller l'enfer, remplir le royaume des cieux. Ça, c'est ce que je crois, moi. Moi, j'aime Reinhard Bonnke. Vous savez, Reinhard Bonnke, les gens pensent que c'est que maintenant qu'il évangélise en Afrique. Ça fait des années qu'il est en Afrique. Moi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je le connaissais déjà il y a 12 ans, 11 ans. Mais quand il allait en Afrique, il voyait qu'il y avait un problème quelque part. Parce que quand il revenait, c'était toujours les mêmes. Parce qu'il fallait qu'il institue des pasteurs, des gens qui puissent les nourrir. Nous devons être nourris de la parole de Dieu pour grandir dans la foi. Nous ne pouvons pas dire, bon, restez à la maison, on regarde God Channel. Hop, on va grandir dans la foi. C'est faux. Il y a des moments, moi, je regarde tous les jours God Channel. Mais ce que je veux dire, c'est pas comme ça que nous allons grandir. Nous allons grandir en communion. Nous allons comment on peut dire ça? Compatir les uns les autres, prier les uns pour les autres. Pourquoi nous venons à l'église? Parce que chacun de nous passe par des moments difficiles. Mais quand nous voyons quelqu'un qui avance dans la foi, ça nous stimule dans la foi en disant, oui, si lui l'a cru, je peux croire aussi. C'est pour cela. Continuons le combat. Moi, je vous encourage à écouter des hommes de Dieu, à aller voir les hommes de Dieu. Mais surtout, quand vous faites une heure de bouchon pour aller voir un homme de Dieu, passez une heure de temps avec Dieu, je peux vous dire que Dieu va vous répondre. Parce que lui est la solution. Il n'y a personne d'autre qui est la solution. Des gens me demandent, comment est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Ne me demandez pas comment. Parce que Dieu va le faire. Nous, on a eu le privilège et l'opportunité que, je me rappelle, il y a un an, c'est ça? Tim, il priait pour qu'on ait rencontre divine, pour que les gens viennent vous parler de Dieu. Vous vous rappelez de cette période-là? Tim, il avait dit, bon, on va prier afin que vous puissiez rencontrer des gens et parler de l'évangile. J'ai jamais vu autant de gens venir nous parler de Dieu. Pourtant, on leur avait même pas parlé de l'évangile. Ils parlaient de leurs problèmes. Vous savez, quand les gens viennent vous voir avec leurs problèmes, c'est que Dieu a déjà préparé leur cœur pour que vous leur donniez la solution. Il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de hasard où vous marchez, ce que vous faites. Parce que Jésus, c'est le seul et le vrai et l'unique. Alors comme je le dis, si tu le veux, tu peux me guérir. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, dites-lui que Dieu peut le guérir. Que Dieu veut le sauver. Que Dieu l'aime. Parce que ça, c'est le plus important. Et que ceux qui ont baissé les bras, parce que des fois dans la vie chrétienne, on peut baisser les bras. Il m'est arrivé de me baisser les bras et des fois d'abandonner. Mais Dieu m'a toujours dit, moi je t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, parce que en moi, mon amour, il n'y a point de variation. Les gens pensent que quand nous venons à Dieu, son amour a changé. Non. Il nous aime autant qu'il nous aimait que quand on était païen, quand on n'était pas chrétien. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de changement. Comprenez bien une chose. Quand vous venez à la vie chrétienne, Dieu ne vous aime pas plus. C'est le même amour. que nous devons comprendre. C'est pour ça que j'aime ce qu'il dit. Il dit, vous ne connaîtrez pas la puissance de Dieu et la nature de Dieu à moins de vous nourrir de sa parole inspirée. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous des enseignements de la parole. Nourrissons-nous de la musique, de la Bible. Je connais un homme, il passait 2 heures dans sa voiture, aller-retour au travail. Il écoutait la radio, mais à un moment donné, il a dit non, il faut qu'il arrête d'écouter la radio. Il va faire une chose qui est différente. Il ne peut pas lire la Bible pendant ces 2 heures. C'est 1 heure de trajet, 1 heure de retour. Il a dit, il va prendre une Bible audio, il va l'écouter. Et maintenant, quand je vois maintenant les bienfaits que ça lui a fait, je peux vous dire, moi je vous le conseille. Si vous avez du temps à perdre dans les bouchons, écoutez la parole de Dieu. Je sais que des fois on a l'impression que c'est rabat-joie de le relire. Quand on lit Jacques, on se dit, oh là là, quand on lit Lévitique, on se dit, mais Dieu a tellement de choses à nous donner. Prenez le temps. Mais comme je dirais dans... Je finirai par ce verset que j'aime beaucoup. Jérémie 33, 3. Qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Dieu veut vous montrer des choses pour chacune de vos vies. Chacune de vos vies. Parce que Dieu a un truc à faire. Dieu a un truc à faire pour chacune de vous. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez ce que vous devez faire ici. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu et il disait une chose. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont assis et qui disent, voilà ce qui se passe. Il y a une 2e sorte de personne qui est assis et qui se lève et qui dit, voilà ce qui devrait se passer. Et la 3e personne, elle est là et elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire ta volonté? Alors nous devons être cette 3e personne en cherchant à faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas ces gens qui sont assis qui disent voilà ce qui se passe ou ce qui se devrait se passer. Mais soyons des gens qui sont actifs à avancer. Parce que Dieu a préparé tellement de choses pour chacune de vous. Des fois j'aimerais vraiment vous dire ce que mon cœur a à vous dire. Parce qu'il y a tellement de choses, vous avez tellement de potentiel ici. Chacune de vous peut apporter quelque chose ici, une édifice, quelque chose. Parce que je crois que Dieu nous a, on est né pour un but divin, pour quelque chose de spécial, pour quelque chose qui va changer nos vies et nos vies futures, pour nos petits-enfants et nos enfants. Mais vous pouvez être cela qui va faire le réveil. Croyez en ce que Dieu a mis en vous. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne regardez pas aux circonstances. Regardez Joseph. Joseph, il est passé par la prison. Et la prison, il est passé comme esclave. Le jour où il a été élevé, il y a eu une famine. Ces gens sont venus, ses frères. Il a dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Parce que par ces événements-là, j'ai appris. Nous aussi, nous devons apprendre par nos fautes, par nos erreurs. Ou par les moments difficiles. Ne disons pas, oui, c'est un moment difficile, alors c'est bien, non. Combattons le bon combat de celui-là qui peut nous faire gagner la victoire. Fermons les yeux et prions.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.